Il est 7h.
France Inter. Nicolas Desmorand. Le 7-9.
Jeudi 11 avril, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, 6 mois de sursis pour le Royaume-Uni. Les 27 donnent à Theresa May jusqu'au 31 octobre pour trouver un compromis avec toujours l'épineuse question des élections européennes. Tous les détails après les autres titres, Agnès.
Les retraités de nouveau dans la rue aujourd'hui, mais sont-ils vraiment les plus mal lotis? La justice demande une nouvelle expertise dans l'enquête sur la mort d'Adama Traoré. L'arrivée de l'aide humanitaire divise les Vénézuéliens et puis un nouveau regard sur la maladie de Parkinson.
Les invités de France Inter ce matin. Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
7h50.
Quelle mesure écolo pour sortir du grand débat? Quel avenir pour la privatisation d'ADP avec la contestation au Parlement et son référendum d'initiative partagée? François de Rugy, le ministre de la Transition écologique et solidaire, est avec nous à 7h50.
À tout à l'heure Alexandra. 8h20, que se cache-t-il derrière les injonctions au bonheur, les invitations pressantes à réussir nos vies, notre amour, notre couple, à vivre des expériences authentiques? La sociologue Eva Illouz réfléchit à cet aspect de la vie contemporaine. Elle est l'invitée du grand entretien de la matinale. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
Un accord dans la nuit bruxelloise, un accord qui prévoit donc un nouveau report du Brexit pouvant aller jusqu'au 31 octobre. C'est le meilleur compromis possible, a aussitôt déclaré Emmanuel Macron, car il préserve l'unité des 27. Face aux tergiversations de Londres, le président français était partisan d'une ligne ferme, s'opposant notamment à un délai plus long. Angélique Boin, cette date du 31 octobre satisfait donc tout le monde.
Entre les partisans d'une extension plus courte et ceux qui voulaient un an, on s'est donc mis d'accord sur 6 mois. Mais la date choisie n'a rien d'un hasard. La prochaine Commission européenne sera officiellement en fonction le lendemain, le 1er novembre. Ce sera donc le signe d'un nouveau départ pour les Européens. Mais il s'agit d'une date butoir. Si le Parlement britannique finissait par adopter l'accord de retrait, Londres pourrait divorcer plus tôt de l'Union européenne, le premier jour du mois suivant la ratification. Et si ce n'est pas le cas avant la date des élections européennes, ils devront alors les organiser. Là-dessus, les 27 ne varie pas. Ce serait néanmoins baroque, a commenté le président Macron. Si nous arrivons à trouver un accord maintenant, nous pouvons encore sortir le 22 mai, a déclaré de son côté la première ministre britannique, qui espère toujours pouvoir éviter l'organisation d'un tel scrutin. Theresa May, qui s'est également engagée hier soir à ce que son pays ne perturbe pas le fonctionnement des institutions pendant ces 6 prochains mois, elle accepte par exemple que les 27 se réunissent sans le Royaume-Uni pour discuter de leur avenir. À Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
De retour à Londres, Theresa May va s'adresser dès aujourd'hui aux parlementaires et poursuivre les discussions avec les travaillistes dans l'espoir d'arriver à un compromis d'ici le 22 mai. En cas d'échec, les électeurs britanniques devront donc élire des députés européens. Une situation paradoxale qui motive anti- et pro-Brexit qu'Éric Biegala a rencontré.
Ils sont là tous les jours devant Westminster, le Parlement britannique. Il y a les Brexiteers, ceux qui militent pour quitter l'Union, et puis les Remainers, ceux qui voudraient bien y demeurer, comme Sheila et Lynn. Et pour qui l'annonce de cette élection européenne en mai en Grande-Bretagne tient de la divine surprise.
Marvelous! Wonderful.
Ce sera un scrutin très important, même si nos députés élus ne pourront probablement pas légiférer sur tel ou tel chapitre. C'est important parce qu'il faut qu'à cette occasion, on batte l'extrême droite. Et pour ce faire, il faudra appeler à voter pour tous les partis qui militent pour rester dans l'Union.
Quelques mètres plus loin, sur le même trottoir d'Abingdon Street, en face de Big Ben, Philippe, un militant pro-Brexit endurci, lui, il arbore les couleurs du UKIP, l'extrême droite pro-Brexit, mais lui aussi participera sans état d'âme à cette consultation européenne.
Ah oui, je vais voter pour le UKIP.
Mais quel est l'intérêt d'envoyer des députés UKIP au Parlement européen aujourd'hui?
Simplement pour le paralyser le plus possible, pour s'opposer à toutes les lois qui y seront présentées, pour s'opposer au budget, à tout, zéro, l'UE n'aura plus d'argent.
Depuis quelques jours, les plus virulents des députés conservateurs pro-Brexit promettent eux aussi de saboter le Parlement européen de l'intérieur tant que leur pays ne sera pas sorti de l'Union. Londres, Éric Biegala, France Inter.
Enfin, à l'issue du sommet à Bruxelles, Donald Tusk, le président du Conseil européen, s'est adressé aux Britanniques. S'il vous plaît, ne perdez pas trop de temps cette fois.
Il est 7h05, Agnès, en France. Nouvelle manifestation des retraités aujourd'hui.
La 7e depuis l'élection d'Emmanuel Macron est toujours la même revendication, le pouvoir d'achat. Le Conseil d'orientation des retraites a justement publié hier son rapport annuel. Il concerne la période 2010-2015 et il montre, Claire Chaudière, que le niveau de vie des retraités est supérieur à la moyenne moyenne de la population, même si la tendance a baissé.
En l'espace de 5 ans, le niveau de vie des retraités a bien baissé de 0,5%, mais il reste au-dessus de celui de la population générale, qui a d'ailleurs lui chuté bien plus brutalement de 2,3%. Pour expliquer cette érosion du niveau de vie des plus âgés, il ne faut pas aller chercher du côté de l'évolution des pensions, qui ont suivi globalement l'indice des prix, indique le Conseil d'orientation des retraites, mais plutôt du côté de l'arrivée d'une génération de retraités de plus en plus souvent divorcés et donc plus précaires, en cause aussi des revenus du patrimoine à la baisse et une hausse importante des prélèvements obligatoires après 2008. Avec un revenu moyen de 2055 euros, les retraités constituent une population plus résistante aux inégalités que les actifs, qui ont vu chez eux les écarts de pouvoir d'achat s'accentuer. Mais cette légère contraction du niveau de vie des plus âgés vient interrompre une longue période de stabilité, et cela avant même les récentes mesures qui poussent aujourd'hui les retraités dans la rue.
Il fait toujours couler beaucoup d'encre, le projet de privatisation d'Aéroports de Paris, article phare du projet de loi Pacte soumis au vote aujourd'hui à l'Assemblée, rejeté à deux reprises par le Sénat. Les députés auront aujourd'hui le dernier mot. Terminus pour l'autotrain. La SNCF devrait supprimer à la fin de l'année son service de transport de voitures en train. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui l'annonce ce matin. Le service a perdu 80% de ses clients en 30 ans et perd chaque année 6 millions d'euros. Une nouvelle expertise demandée dans l'enquête sur les conditions de la mort d'Adama Traoré. La famille du jeune homme, mort lors d'une interpellation musclée en juillet 2016 à Beaunon-sur-Oise, redoutait un non-lieu. Les juges ont finalement demandé une nouvelle expertise après des rapports controversés. Yacine Bouzrou est l'avocat de la famille Traoré qui espère la mise en examen des gendarmes et la tenue d'un procès.
Alors les choses sont très simples. Nous demandons aux médecins qui seront désignés par les juges de dire la vérité, de ne pas mentir. Je vous rappelle que dans ce dossier, des experts désignés par les juges ont mis en avant une infection généralisée des organes d'Adama Traoré pour expliquer son décès. Nous savons aujourd'hui que c'est faux. D'autres experts désignés par les juges ont mis en avant une pathologie cardiaque pour expliquer le décès d'Adama Traoré. Nous savons également que c'est faux. Ensuite, d'autres médecins ont mis en avant des pathologies telles que la drépanocytose et la sarcoïdose pour expliquer le décès. Nous savons également aujourd'hui que c'est faux. Donc il y a un moment où mes clients n'acceptent plus des mensonges émanant de pseudo-experts désignés par les juges. Nous souhaitons que les juges désignent enfin des médecins compétents, spécialistes des maladies qu'ils mettent en avant. Et nous espérons surtout que les nouveaux experts désignés par les juges réaliseront ce travail rapidement. Nous ne pouvons pas comme ça rallonger les instructions. Il y a un moment où une affaire doit être élucidée dans un délai raisonnable et mes clients ont le droit de connaître la vérité sur les circonstances de la mort d'Adama Traoré.
Un propos recueilli par Julie Pietri. Une hausse importante de la délinquance à Paris depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, selon des chiffres de la place Beauvau. Mobilisés sur des missions de maintien de l'ordre, les policiers n'ont plus le temps de lutter efficacement contre la délinquance. Résultat, une hausse depuis le début de l'année de 10% des vols et de 8% des cambriolages dans la capitale. Prévenir la délinquance pour enrayer la radicalisation. Thème aujourd'hui d'un comité interministériel qui se tient à Strasbourg en présence du Premier ministre et de 8 membres du gouvernement. Le tueur du marché de Strasbourg en décembre dernier avait fait l'objet d'un premier signalement par l'éducation nationale à l'âge de 8 ans avant une première condamnation à 14 ans.
Il est 7h08, l'aide humanitaire arrive enfin au Venezuela.
Et cette fois, le président en place, Nicolas Maduro, a donné son accord à la Croix-Rouge internationale. Cette implication du gouvernement inquiète d'ailleurs les partisans du président autoproclamé, Juan Guaido, dont les partisans sont de nouveau descendus dans les rues hier. Reportage à Caracas de Benjamin Delisle.
Au milieu des coups de sifflet et des drapeaux qui s'agitent, Teresa, 83 ans, porte une lampe frontale comme un symbole de résistance.
Ici, le courant peut s'en aller n'importe quand. Hier soir, il y a eu une coupe. On a déjà passé 5 jours sans lumière.
Des coupures qui durent depuis plus d'un mois et aggravent la situation déjà dramatique du pays, notamment dans les hôpitaux. Donc pour Teresa, l'arrivée d'une aide de la Croix-Rouge est forcément une bonne nouvelle.
Je pense que l'aide humanitaire, nous en avons besoin. D'où qu'elle vienne, elle est nécessaire.
Tout le monde ne partage pas son avis. Chez certains partisans de l'opposition, comme José Angel, la Croix-Rouge a mauvaise presse.
On le sait, c'est connu. La Croix-Rouge vénézuélienne est très proche du gouvernement. Donc j'ai l'impression que c'est une manipulation. Je garde espoir, mais je crois qu'il s'agit d'une stratégie politique pour donner plus de temps au régime.
Il avoue tout de même que toute aide est bonne à prendre, si tant est qu'elle soit correctement distribuée. Ce dont doute Maria, dont le fils est à l'hôpital.
Ces médicaments n'arriveront pas là où ils doivent arriver. J'aimerais y croire, parce que beaucoup d'enfants meurent à cause du manque de médicaments, mais je n'ai aucune confiance dans le gouvernement.
Quoi qu'il se passe, les manifestants assurent qu'ils garderont une défiance absolue vis-à-vis de Nicolas Maduro. Selon eux, la situation ne pourra s'améliorer que lorsqu'il aura quitté le pouvoir. Caracas, Benjamin Delisle, France Inter.
Ce sera donc le 4 juillet. Le président algérien par intérim Abdelkader Ben Salah a signé le décret hier fixant donc l'élection présidentielle en Algérie au 4 juillet prochain. Au Soudan, la situation pourrait basculer dans les heures qui viennent. L'armée doit faire une déclaration importante bientôt, vient d'affirmer la télévision d'État. Depuis 6 jours, des milliers de manifestants campent devant le quartier général de l'armée à Khartoum, demandant le départ du président Omar el-Béchir, 75 ans, au pouvoir depuis 30 ans. Un témoignage à présent, celui de Janine, une sexagénaire atteinte de la maladie de Parkinson. À l'occasion aujourd'hui de la journée mondiale, une campagne d'information est lancée. La maladie de Parkinson touche 200 000 personnes en France, dont Janine, que Lisa Guyenne a rencontrée.
Cela fait 7 ans que Janine, une grenobloise de 69 ans, vit avec Parkinson, des tremblements et d'autres symptômes moins visibles.
Des raideurs, des douleurs et puis une extrême fatigue. C'est-à-dire qu'on se réveille le matin, on est fatigué. Avant, j'étais capable de faire 3-4 choses en même temps. Maintenant, je les fais une après l'autre et je me retrouve à la fin de la journée en n'ayant pas fait grand-chose.
Des symptômes que certains assimilent à tort à de la paresse ou de l'exagération. Le regard des autres est parfois difficile à supporter, explique Janine.
On s'imagine plein de choses. Quand vous êtes assis sur une chaise et puis que vous ne bougez pas, on est... Ouais, bah écoute, avant elle bougeait beaucoup celle-là, maintenant on se demande si on ne fait pas un peu trop de cinéma.
Le problème c'est qu'aujourd'hui on se fait encore trop d'idées reçues sur Parkinson. Le professeur Philippe Damier est neurologue au CHU de Nantes.
C'est vrai que quand on pense maladie de Parkinson, on pense souvent tremblements et sujets âgés. Or on sait que c'est une maladie qui commence plutôt autour de 50-60 ans en moyenne. Beaucoup de patients n'ont pas de tremblements. Dans ces cas-là, c'est une maladresse gestuelle, c'est une raideur, des douleurs, une fatigue intense qui constituent les premiers symptômes de la maladie.
De son côté, la recherche progresse. Aujourd'hui, les médecins essayent de prévoir les évolutions de la maladie en fonction des patients pour anticiper et adapter au mieux les traitements.
La suite des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Hier soir, Barcelone est allé battre Manchester United 1-0 et l'Ajax Amsterdam a fait match nul un partout face à la Juventus Turin.
Enfin reverra-t-on un jour Tony Parker sur les parquets?
Rien n'est moins sûr. Pour la première fois depuis ses débuts en NBA, il y a 18 ans, le basketteur ne participera pas au phase finale du championnat américain après l'élimination de son équipe, Charlotte, hier. C'est d'ailleurs en spectateur qu'il a suivi le match de la dernière chance. Les rumeurs sur la fin de carrière de Tony Parker, 37 ans le mois prochain, sont donc de plus en plus persistantes. Tony Parker, que l'on pourrait voir plus souvent du côté des Alpes. Le sportif est en effet sur le point de racheter la station de ski de Villard-de-Lans en Isère. Alors un excellent basketteur fait-il un bon skieur? Là, je n'ai pas la réponse.
Moi non plus. Merci Agnès Soubiran.